La chronique appartient à l'histoire, et pourtant j'ai décidé de vous raconter une histoire. C'était le début des années 70, j'avais quitté mes études musicales au conservatoire. Après un long voyage, j'étais arrivé à Kaboul, en Afghanistan. À l'époque, c'était un monde ancien, presque médiéval. J'avais entendu jouer des musiciens traditionnels, et j'avais envie d'acheter un instrument à cordes appelé rebab. On m'avait dit de chercher un atelier dans le milieu de la ville ancienne. Et quand j'y arrive, personne n'était là. J'attends dans ce lieu plein de poussière et de bois à demi travaillé. Je cherche à appeler quelqu'un, mais puisque je suis seul, je regarde derrière un rideau. Il y a une chambre très propre et assez jolie, et contre le mur, un objet inattendu, un piano vertical. Il ne s'agissait pas d'un piano normal, comme on le voit partout. Ce piano, c'était bien curieux, décoré comme un meuble indien plein d'arabesques faits en plastique qui imitaient l'ivoire et la nacre. Le piano était fermé, mais mon désir était trop fort. Je l'ouvre et je laisse tomber mes doigts sur un accord des notes, mais le son qui se produisait, c'était étonnant. C'était une sonorité de piano, bien sûr, mais tellement loin du son qu'on a l'habitude d'entendre. C'était déjà là une musique merveilleuse, parfaite, comme dans un rêve. Je commence à jouer, ou mieux, à faire sortir de la mémoire de mes doigts tout ce qui était resté là-dedans depuis mes études. Du Bach, du Mozart, deux choses assez simples, je ne suis pas bon pianiste. Et je m'aperçois que je ne suis pas seul. Un homme est assis derrière moi sur le tapis en silence. Il a de grands yeux pleins de tendresse. Je quitte le piano tout de suite et je m'excuse, mais il m'arrête et me dit avec un parfait accent britannique. « Je vous en prie, monsieur, jouez encore. » Son geste est tellement passionné. Je joue de nouveau les mêmes choses, mais il n'y a plus de musique dans mes doigts ou dans ma tête. Je m'excuse. Il me dit encore, « Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir ici demain et jouer encore pour nous ?» Je ne sais pas quoi faire. Je réponds que oui. Et le jour après, je suis là. Et il ne m'attend pas tout seul. Il y a un jeune homme avec lui. Son fils, je pense, il a les mêmes yeux pleins de tendresse. Je suis accueilli dans la chambre du piano avec du thé, des gâteaux, des coussins neufs sur le fauteuil. Ils attendent de moi un peu de musique au piano et j'y vais. Je joue encore, malgré moi. Une petite sonate de Mozart, plus ou moins improvisée avec la tête qui n'arrive pas à se concentrer. Il me semble que cette musique ne signifie plus rien dans cet endroit, même pour moi. Elle retourne sur le lieu que j'avais abandonné, mémoire d'un passé duquel j'étais en train d'échapper avec mon voyage. Mais le bonhomme est ravi, il se réjouit, m'offre encore du thé et il me demande « Monsieur, est-ce que vous pourriez juger mon fils, qui lui aussi joue du piano ?» Mais naturellement oui, et je réponds embarrassé, car je suis mauvais pianiste. Et le jeune homme se met assis au piano et commence à jouer. Là s'arrête le pouvoir des mots. Je peux bien décrire mon émotion par les larmes qui sortaient de mon cœur, mais le miracle de cette musique ne peut pas être transmis par le récit. C'était une musique jamais entendue, et pourtant c'était comme si elle était imprimée dans la mémoire la plus intime. Il ne s'agissait que de la même sonate de Mozart que j'avais jouée le jour avant, mais elle ne venait pas du même lieu. Imaginez donc, avoir oublié le piano, la musique de Bach et de Mozart et tout le reste, non pas pour quelques années, mais pour des siècles et des siècles, jusqu'au moment où quelqu'un retrouve un piano, une méthode pour le réparer, une autre pour apprendre à jouer, et une partition de musique. Il n'y a personne qui se souvient de toutes ces choses, et pourtant lui recommence à reproduire cette séquence de sons, note après note, et chaque note trouve ou rejoint un signifié, une vision, fragment du monde qui a existé sans rien connaître de son passé. Nous sommes là, dans ce futur, par un étrange miracle. Et cette musique que nous sommes convaincus de très bien connaître, ce langage de son qui nous a raconté mille fois sa propre histoire, à ce moment-là, on ne la reconnaît plus. Il y a là une autre réalité, ou mieux, un autre passé, et donc un autre avenir. Oui, les notes sont bien les mêmes. On peut bien les reconnaître et prononcer le nom du compositeur et de l'œuvre. Mais elles résonnent pour la première fois dans le monde, parce qu'elles racontent pour nous des histoires jamais entendues. Et on comprend finalement que l'art miraculeux, que l'inspiration divine qui avait guidé la plume du compositeur, peut-être ne venait pas seulement de notre univers, de l'expérience de peuple et de l'histoire. On comprend que cette musique n'était pas simplement la représentation du monde. Dans cet étrange futur, maintenant c'est évident. Cette musique n'avait pas besoin de notre imagination pour rejoindre un signifié, pour nous conduire à travers des émotions et des visions qu'il soit possible de partager avec les autres. Quelle était donc l'origine de l'art de ce miraculeux pianiste? Le bonhomme alors me racontait une histoire. Dans les dernières années de la domination anglaise de l'art, qui se terminait en 1945, les officiers britanniques utilisaient très souvent des serviteurs afghans à cause de la peur d'une révolution du peuple indien qui voulait l'indépendance. Lui était très jeune quand ses parents l'avaient envoyé au service d'un colonel anglais qui vivait avec sa famille dans le quartier militaire de New Delhi, à Nantes. Il faisait les travaux les plus humbles dans la maison, mais la femme du colonel et ses deux filles étaient très gentilles avec lui. Chaque soirée, la famille se réunissait dans la salle de musique, assis autour du grand piano joué surtout par les filles, mais aussi parfois par le colonel, lui-même bon pianiste amateur. Un mauvais jour, une révolte des rebelles indiens avait occupé tout le centre de la ville et le colonel était bloqué avec ses soldats très loin de sa maison. Au retour, l'horreur. Toute sa famille était massacrée, même les serviteurs, sauf le jeune afghan. Il avait échappé à la mort parce qu'il s'était caché dans une petite armoire dans la salle du piano, où il avait l'habitude de s'installer pour rester des heures entières à écouter la musique, avec la secrète complicité de sa patronne. Le colonel n'avait pas supporté cette douleur et il était tombé dans un état de folie qui lui avait fait passer plusieurs années dans un hôpital psychiatrique où le seul ami resté à son côté, c'était son jeune serviteur afghan que personne ne pouvait éloigner de son maître. Un jour, le colonel retrouva sa santé. Conscient du dévouement de son jeune ami, il lui demanda de le suivre dans une nouvelle vie. Après la vente de la maison et de toutes les choses qui étaient un souvenir trop lourd, et donc surtout le grand piano chargé plus que tout le reste des terribles mémoires, le colonel fait préparer un acte d'adoption pour que son serviteur afghan devienne son fils légal, son héritier. Ils s'en vont vivre ensemble dans la ville de Chandigarh, pas loin de la frontière pakistanaise, sur la route pour l'Afghanistan. Là, le colonel entreprend une activité commerciale qui peu à peu lui fait retrouver un bon niveau de vie, une vie à partager avec son nouveau fils qui pourtant, depuis le jour où il avait été envoyé par son père travailler en Inde, ne connaît qu'un seul rêve. Retrouver les lieux de sa naissance, sa famille, ouvrir un atelier d'artisan avec l'argent gagné chez les Anglais, se marier et avoir des enfants. Le colonel le comprend bien. Il se rend compte aussi du grand vide dans le cœur de son fils d'adoption. Mais il n'a pas le courage de le laisser partir et de vivre seul. Un jour, en suivant les indications du colonel sous ses ordres, les ouvriers indiens ont fabriqué un piano vertical et l'ont décoré selon le goût local. Le piano arrive à la maison et le colonel parle à son fils avec ces mots. « Tu as tellement aimé notre musique que tu as risqué mille fois d'être battu pour avoir abandonné ton travail, caché derrière la porte à écouter nos intimes concerts familiaux. On le savait, mais c'était un secret entre nous. » Ému par le pouvoir de la musique dans un monde de violence et d'injustice. Et je me souviens bien de la tristesse dans tes yeux, quand je m'étais séparé du piano sur lequel il y avait la mémoire vive de ma félicité perdue. Donc ici, tu as mon cadeau. Je vais t'apprendre à jouer le piano sur cet instrument qui était fabriqué pour toi. Le jeune homme est bouleversé. C'est une surprise magnifique, mais tellement d'années de travail dur et fatigant, ses mains ne sont plus capables de retrouver quelques agilités, de bouger selon la commande de l'esprit. Il n'est même pas capable de tenir une plume entre les doigts, même si son maître lui a appris l'écriture. Et donc le colonel prend une décision bizarre. Tu vas apprendre le piano sans le jouer. Tu auras mes doigts, ou les doigts de quelqu'un d'autre qui jouera la musique pour toi. Comme ça, plusieurs années passent entre des journées de travail et des soirées de musique. Et un matin, le colonel ne se lève pas. Après sa mort, son fils, mon bonhomme afghan, hérite de tout. Il vend tout, sauf le piano. À son retour chez lui, Kaboul n'a pas beaucoup changé. Il achète une maison, ouvre un petit atelier pour fabriquer des instruments de musique traditionnels, parce que c'était le travail de son père. Il trouve une épouse, et des années de sérénité passent, mais sans avoir des enfants. C'est alors la décision d'adopter. Un petit orphelin indien vient vivre dans la maison de Kaboul. Et c'est à lui que la leçon de musique du colonel est destinée. Année après année, la mémoire du vieux serviteur retrouve, note après note, toute la musique qu'il avait aimée dans la grande maison de New Delhi. Et son fils devient pianiste, dans un lieu où il n'y avait pas un conservatoire, et même pas une radio. Un seul regret, il me disait, de ne jamais avoir rencontré quelqu'un qui pouvait juger ma mémoire. Monsieur, vous êtes le premier homme qui peut me dire la vérité. Est-ce que c'était juste cette sonate de Mozart ? Ils m'ont donné la plus belle leçon sur la conservation de l'œuvre d'art. C'est de cela que j'ai envie de vous parler encore dans mes chroniques la prochaine fois. Thank you.